Bienvenue dans 7 jours dans le monde sur BFM Business pour revenir sur toute l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à New York, aux Nations Unies qui semblent impuissantes pour mettre un terme à la guerre en Syrie. La Syrie, justement, une nouvelle fois avec de violents combats qui ont repris après une courte trêve. L'Europe, Bruxelles, Bratislava, que faire des migrants? Et puis l'Inde qui commande des avions Rafale, mais pourquoi faire? Bienvenue dans 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde sur BFM Business avec Jean-François Daguzan qui est avec nous, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour Jean-François.
Bonjour Fabrice.
Et avec nous Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Professeur de sciences politiques, de géopolitique à l'IEP, Sciences Po justement, à Paris Business School. Et vous venez nous présenter Géopolitique de la Nation France avec votre maître Yves Lacoste. La patrie est en danger, c'est ce que vous nous dites,
hein ? Oui, il est en danger sur deux fronts. D'abord, le fléau islamiste et les idiots utiles de l'islamisme radical en France.
Les idiots utiles.
Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Hein. Ouais. Les gens qui interprètent l'islamisme de façon un peu douceâtre, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui sont très complaisants vis-à-vis de ce fléau idéologique. Et d'autre part, la montée en puissance, on les stigmatise souvent, hein, des populismes plus ou moins extrémistes en Europe. Par conséquent, il y a deux fronts et c'est là-dessus que Yves Lacoste et moi, nous battons avec ce livre.
Eh bien, on y reviendra notamment après la pause d'ici une grosse vingtaine de minutes. Hein. C'était un peu les discours d'adieu, donc définitifs ou temporaires à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en début de semaine, Barack Obama, et puis François Hollande, donc, qui a pris la parole avec une préoccupation commune, la Syrie.
Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Alep est une ville aujourd'hui martyre, qui restera dans la mémoire des nations comme une ville martyre. Des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes. Des populations entières sont affamées. Des convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit.
Ça suffit, disait le président de la République, donc en début de semaine à New York, aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale. Frédéric Ancel, 2011-2016, 5 ans de guerre, 300 000, 400 000 morts, hein. L'ONU, Ban Ki-moon, qui appelle à une nouvelle trêve. Mais l'ONU, elle semble complètement impuissante sur ce dossier.
Et l'ONU, c'est fondamentalement cinq puissances principales hein, qui disposent d'un droit de veto. On les connaît, c'est les cinq grandes puissances. À partir du moment où
France, Grande-Bretagne, États-Unis, Chine populaire et Russie.
À partir du moment où elles ne s'entendent pas, ou plus exactement lorsqu'il n'y a pas unanimité entre elles, si l'une d'entre elles seulement décide de menacer, de poser son veto ou de poser son veto, au fond l'institution est grippée. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne plus, car ça procède de son existence. Elle fonctionne comme ça depuis 45 et ça a toujours été fait de cette manière-là. Autrement dit, c'est pas l'ONU qui ne marche pas, c'est peut-être la façon dont il faudrait la réviser qui est plus urgente que jamais. Mais en même temps, aucune de ces grandes puissances ne se dessaisira bien évidemment de son veto. Et là, en l'occurrence, on le sait très bien, c'est la Russie, suivie d'ailleurs de loin, mais suivie tout de même par la Chine, qui empêche aujourd'hui une véritable résolution, sachant, pour être honnête, que de l'autre côté, c'est-à-dire côté opposition, majoritairement islamistes aujourd'hui, on a des puissances en soutien qui ne sont pas très constructives, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense notamment à l'Arabie Saoudite et au Qatar.
Il faut revoir le fonctionnement de l'ONU, c'est la 71e Assemblée Générale de l'ONU, Jean-François Daguzan.
Écoutez, je crois qu'on doit en être à la 20e proposition de réforme des Nations Unies, peut-être à quelques près, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce que trop de gens ont des choses à perdre, puisque réformer, ce serait laisser une part du pouvoir. Ouvrir le Conseil de sécurité, il y a des candidats dont l'Allemagne, par exemple, depuis très longtemps, l'Inde aussi. Donc cela veut dire que certains devraient lâcher un peu pour en faire rentrer d'autres. On demande aussi d'accroître les pouvoirs de l'Assemblée, mais le Conseil de sécurité n'en va pas vraiment parce qu'elle considère que c'est à eux de faire fonctionner le monde. Donc, c'est tous ces efforts très nombreux et les derniers pas si lointains ne peuvent pas fonctionner. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait créé les G7, G8, G20 en leur temps, c'est-à-dire pour trouver finalement un espace de contournement du blocage institutionnel des Nations Unies qui d'une certaine manière va rester inamovible pour longtemps, peut-être en attendant la future catastrophe, et ces institutions finalement informelles servent d'exutoire puisque dans le G20 vous allez trouver l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, etc. Et c'est finalement une façon de fonctionner parallèle qui donne des résultats comme on l'avait vu pour la crise de 2008.
Oui, on voit quand même un monstre d'impuissance quand même, hein. Ça ne bouge pas. Les défis du moment, les migrants, les menaces de la Chine, les menaces de la Russie, la guerre contre Daesh et l'ONU dans tout ça, rien, regarde.
Ben, ça marche quand il y a unanimité, comme l'a dit Frédéric. Se mettre d'accord sur un grand scandale insupportable pour que tout d'un coup la machine se mette à bouger. Mais si vous voulez, il y a aussi un précédent important qu'il faut rappeler concernant la question russe et chinoise, c'est l'affaire libyenne. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient réussi à faire voter une décision unanime de défense des droits de l'homme par l'usage des armes à la Russie et à la Chine.
Eh oui.
De cette petite résolution,
c'est allé plus loin,
on a éliminé Gaddafi et la Russie et la Chine ne nous l'ont jamais
pardonné. Se sont fait avoir, comme on dit. Frédéric Ancel.
Oui, vous avez cité un chiffre terrible, 300, peut-être 400 000 morts, avec une dizaine de millions de déplacés et ou réfugiés. Vous vous rendez compte que
la moitié de la Syrie,
la guerre civile syrienne a fait trois fois plus de tués que toutes les confrontations israélo-arabes en 70 ans de confrontations, trois fois plus, et environ 10 fois plus de réfugiés et de déplacés. On est avec la Syrie sur la pire catastrophe humanitaire, et sans doute, effectivement, l'une des pires catastrophes alors institutionnelles, onusiennes, de ces dernières années, peut-être même depuis le Rwanda en 94.
Ouais, on entendra tout à l'heure Barack Obama sur le dossier des migrants, on vient d'entendre François Hollande. Il y a quand même un point commun, finalement, c'est leur échec sur la Syrie. L'un n'a jamais voulu intervenir contre Bachar el-Assad, et l'autre, c'est couché devant la décision du premier. Frédéric Ancel.
On se souvient de la fameuse ligne rouge de Barack Obama qui, en 2012, avait menacé des pires foudres Bachar el-Assad s'il utilisait du gaz de combat. On se souvient de la crise de 2013 des gaz neurotoxiques utilisés par Assad crânement. Et un Obama, effectivement, vous l'avez très bien dit, qui s'aligne, qui s'allonge. Et j'aimerais quand même rappeler qu'à l'époque, le seul chef d'État qui était resté debout et qui avait, en quelque sorte, qui voulait mettre à exécution là les menaces contre Assad, eh bien, c'était François Hollande. Ouais. Alors, il y avait Cameron, mais Cameron n'avait pas eu l'aval des communes. Du Parlement britannique. Et il ne restait à l'époque que la France. Et on voit bien la détermination aujourd'hui de François Hollande à l'ONU. Simplement, la France seule, bien évidemment, ne peut rien faire en Syrie.
Oui, on ne peut pas comparer les deux présidents de ce point de vue-là. Quand François Hollande a dû y aller seul, il y est allé. On l'a vu avec le Mali, par exemple. Donc, là, dans le cas particulier de la Syrie, il était extrêmement difficile d'y aller seul. Sur une action qui n'était pas d'ailleurs une action des Nations Unies à proprement parler, puisqu'on n'aurait jamais eu l'accord du Conseil de sécurité. Donc une action multilatérale à la marge de la légalité, enfin qui était, dont la légalité était justifiée par justement l'ignoble pratique des armes chimiques syriennes, mais qui nécessité, de ce point de vue-là, une action conjointe des principaux alliés. Et le recul de Barack Obama, qui n'a jamais voulu que les États-Unis mettent les pieds dans l'affaire syrienne, vu qu'il avait été élu pour se retirer d'Irak et du Moyen-Orient, donc revenir, c'était un arrache-cœur, donc, y compris d'ailleurs contre le département d'État qui était pour l'intervention à ce moment-là, donc contre sa propre administration et le département d'État, il a refusé finalement en appliquant une ligne qu'il s'était fixée à lui-même et qu'il a toujours tenue.
Alors, l'usage des armes chimiques, ça a repris cette semaine. Bombes au phosphore, barils d'explosifs utilisés par Bachar el-Assad, par ses hélicoptères, d'intenses bombardements du régime avec les Russes qui ont repris sur les quartiers rebelles d'Alep. quartier Alep essentiel pour Damas. Et on voit, ça n'aura tenu qu'une petite semaine, plus ou moins, cette trêve conclue par les Américains, par les Russes. L'aide humanitaire toujours bloquée quand ce ne sont pas des camions de vivres qui sont visés. 250 000 habitants encore confinés à Alep. Pourquoi cet échec, Frédéric Ancel? C'est parce que Américains et Russes n'ont pas su faire pression sur leurs différents alliés sur place.
Ah, c'est surtout que les objectifs sont extrêmement différents. L'objectif de la Russie, c'est de se maintenir au Proche-Orient. Hein. Il faut bien comprendre que la base de Tartous, les deux bases maintenant de Tartous et de Latakié, hein, sur ce littoral montagneux syrien, eh bien, ce sont les deux seules bases russes du bassin Méditerranée-Moyen-Orient. Donc un bassin géostratégique gigantesque et très important. Donc il faut s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, la stratégie, c'est de soutenir Mordicus, le chef de la communauté la plus favorable à la Russie. Je rappelle quand même que depuis 56, l'URSS de l'époque donc et la Syrie sont alliés. Hein, et la Russie a poursuivi cette alliance après la chute de l'URSS. Ça, c'est l'objectif russe. Et l'objectif américain, c'est de plus en plus, me semble-t-il, ces dernières années, d'empêcher la Russie de revenir. Avec donc une stratégie au service de cet objectif, qui est de soutenir les alliés inconditionnels, de moins en moins inconditionnels mais puissants, à savoir les Turcs. Autrement dit, de part et d'autre, on joue un jeu, si vous voulez, c'est pas du cynisme, chacun défend, pardon, sa crèmerie, mais ça ne convient pas lorsqu'il s'agit évidemment de trouver un cessez-feu, parce qu'on n'est pas d'accord sur les... j'allais dire, il n'y a pas les prérequis, on n'est pas d'accord sur l'essentiel.
Jean-François Lécuzin, il y a un espoir où la Syrie elle est condamnée à perpétuité à la guerre?
Comme toujours, les guerres finissent par céder et le problème, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Aujourd'hui, aucune condition n'est réunie pour même un cessez-le-feu, comme nous le voyons. Pourquoi ? Parce que des deux côtés, ou des trois ou quatre côtés, parce qu'on en est là aujourd'hui dans cette guerre, l'opposition pro-occidentale, les islamistes d'opposition, Daesh et le régime et ses soutiens. Donc déjà des fronts multiples, des options multiples, puisque chacun a une idée de ce que devrait être la victoire ou la négociation. Donc personne n'est d'accord sur ce que serait cette future Syrie renégociée. Négociation qui se fait sur un champ de ruines. Il faut quand même rappeler que l'essentiel de la Syrie économique est ruiné. Il n'y a presque plus rien. Donc, avec des populations...
Avec une moitié de la population qui a été déplacée.
Comme cela vient d'être évoqué, déplacée, réfugiée, etc. Donc, on a une table rase à partir duquel, aujourd'hui, c'est une économie de guerre qui s'est mise en chantier et dans laquelle les acteurs ont des intérêts. Gestion du partage du pétrole, gestion des routes économiques, contrôle du marché noir à travers la Turquie, etc., etc. Et ensuite aussi retour, remise en œuvre des infrastructures. Donc blocage à ce niveau et avec à la fois les parrains internationaux qui ne sont pas d'accord, comme on vient de le dire, sur les objectifs finaux, et les gens de l'intérieur qui ne sont pas d'accord sur ce que devrait être la fin de la guerre et ses modalités. Donc à partir de là, nous sommes hélas contraints à imaginer que la guerre va durer jusqu'à l'épuisement qui fera qu'à un moment ou à un autre, on finira par trouver une voie. Parce que imaginer la défaite du régime, c'est fini. Le seul groupe qui peut être détruit aujourd'hui, c'est Daesh.
Ouais, ouais, ouais. Alors Daesh, justement, on en dit un mot, hein, bien sûr, avec sur le terrain des coups qui sont portés à l'organisation terroriste. Est-ce que ça sera le coup d'après, justement, Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak, qui avait été la première à être conquise donc l'été 14 par les troupes de l'organisation État islamique, hein. Première grosse prise de l'EI. Est-ce que l'offensive se prépare? On dit que les forces anti-Daesh gagnent du terrain en direction de cette ville, Jean-François Lécuzin.
Alors elle se prépare depuis longtemps et à pas.
Mais qu'elle progresse en tout cas.
Je dirais comme un bulldozer avance lentement. Ça fait maintenant, je dirais, des 2 ans que la reconquête a commencé, pas à pas, avec des allers-retours, Fallujah, Tikrit, etc. Donc on est aujourd'hui sur la question de Mossoul. Mais encore faut-il qu'il y ait une coordination de l'action qui est compliquée à mettre en œuvre. Vous avez l'armée officielle irakienne, vous avez les milices pro-iraniennes qui ne sont pas forcément d'accord entre elles, là aussi, sur la façon de conduire les hostilités. Vous avez les passes d'Aran du général Soleimani. Vous avez également désormais des tribus sunnites pro-État que les États-Unis ont réussi à remettre dans le circuit. Et tout ça est censé faire une offensive commune. Et les Kurdes, qui représentent notre problème en soi, parce que les Kurdes ne veulent pas revenir sur l'offensive comme le font les Kurdes syriens aujourd'hui. Ils sont dans la défense du précaré, ce qui leur suffit largement. Donc, autour de Mossoul, vous avez cette préparation très lente d'une offensive qui, pour qu'elle trouve un véritable point d'application, doit résoudre plein de problèmes politico-stratégiques.
Ouais. Et il a raison, hein, Jean-François Daguzan, Frédéric Ancel, parce que c'est important. Il y a 20 000 à 30 000 soldats irakiens qui sont mobilisés. Qui va libérer en premier Mossoul? Et ça sera symbolique. Est-ce que ce sont les Kurdes? Est-ce que ce sont les soldats irakiens chiites qui vont libérer cette grande ville sunnite? Fondamental.
Ah, c'est d'autant plus fondamental que le terme même de libération est une représentation en réalité. Parce que est-ce que les Kurdes vont se représenter libérer Mossoul? Mossoul n'est pas kurde. Autrement dit, pourquoi ils iraient faire tuer des centaines, des milliers de leurs combattants? Les chiites, qui composent l'essentiel de l'armée, enfin, de ce qu'on appelle l'armée irakienne aujourd'hui, ils vont aller libérer Mossoul, mais sous les sunnites, ils vont être accueillis par qui et comment ils vont être accueillis? Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a presque...
Comme des occupants, peut-être.
Ouais. Mais bien sûr. Et ils vont perdre beaucoup d'hommes dans l'histoire. On sait très bien que c'est l'ultime bastion fondamental, d'ailleurs la seule ville dont dispose réellement Daesh, et que Daesh a tout concentré là-dessus en termes de mines, de pièges et de kamikazes. Et par conséquent, ça sera extrêmement coûteux pour celui qui voudra attaquer la ville. Quant aux bombardements aériens, alors si vous voulez, il faudrait quand même qu'une aviation prenne la responsabilité morale écrasante d'aller tapisser de bombes une ville qui compte encore plus d'un million d'habitants. Donc c'est, pour toutes ces raisons, c'est extrêmement compliqué. Et puis deuxième point qu'il ne faudrait pas oublier, tant sur la Syrie que sur l'Irak, ou sur la Libye d'ailleurs, c'est l'autre phase de la guerre qui est moins spectaculaire car elle fait un peu moins de victimes, en tout cas directes, ce sont les trafics. Trafic de pétrole, on l'a vu à travers la Turquie. Trafic d'armes, bien évidemment. Trafic de cigarettes, énormément. Et jusqu'ici, jusqu'à nos quartiers.
D'antiquité, les douanes françaises ont saisi une œuvre d'art venue de Syrie cette semaine.
Absolument. Et donc, ce qui n'est pas sans rappeler que, et c'est très important, me semble-t-il, que lorsqu'il y a conflit d'une part, lorsqu'il y a tribalisme ou clanisme d'autre part, et lorsqu'on assiste à la montée en puissance de réseaux extrêmement fanatisés, par exemple les djihadistes, d'Al-Qaïda ou de Daesh, eh bien, la criminalité, notamment les trafics, et jusqu'à chez nous en France, sévissent, et sévissent de manière extrêmement grave.
Oui, alors Daesh qui continue ses actions terroristes, ou qui continue d'inspirer ses actes terroristes, et on l'a vu le week-end dernier dans le nord et le nord-est des États-Unis, trois actions violentes, attaque au couteau dans un centre commercial du Minnesota, revendiqué par Daesh, explosion à Chelsea, donc dans le sud de Manhattan, plusieurs dizaines de blessés, puis bombe artisanale dans une station balnéaire du New Jersey. L'auteur de l'attentat de New York, c'était un djihadiste, un Américain d'origine afghane, hein, dont la lecture était, semble-t-il, les œuvres de Al-Qaïda et de l'État islamique. En tout cas, tout ça intervenant au milieu de la campagne électorale, bien sûr, hein, nécessairement Trump et Clinton s'en sont emparés.
Nous vivons un moment difficile. Nous allons devoir être forts. Ça vient juste d'arriver. Nous trouverons, mais c'est quelque chose de terrible que nous vivons dans notre monde et dans notre pays.
Je suis la seule candidate en lice qui ait pris part à des décisions difficiles pour stopper les terroristes. Et j'ai élaboré un plan complet en accord avec la nature évolutive de leur stratégie pour mener le combat contre l'État islamique partout où ils nous menacent, même sur Internet.
Voilà, Hillary Clinton et juste avant c'était Donald Trump. Jean-François Daguzan, incontestablement, il reste 6 semaines. On va parler immigration, terrorisme, État islamique.
Bien entendu, et on voit très bien que Trump surfe sur cette vague d'angoisse qui saisit les États-Unis et qui n'est peut-être pas d'ailleurs dans les calculs de l'État islamique totalement étrangère à une stratégie peut-être pas très fine, mais de faire en sorte que plus d'attentats possibles aillent vers les États-Unis afin de soutenir d'une certaine manière la figure la plus radicale.
Je
ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais d'une certaine manière, avoir Trump, c'est avoir un épouvantail.
Une cible, vraiment. Voilà,
facile et une cible, alors que Hillary Clinton, ce qui le dessert et qui la dessert malheureusement, et dans l'élaboration, dans la démonstration d'un professionnalisme assumé, en montrant qu'elle a déjà travaillé sur ces sujets-là et
comme secrétaire d'État,
oui.
Hein,
oui, oui. Et
beaucoup
plus facile à défendre, beaucoup plus difficile à défendre que de dire on va mettre un mur devant le Mexique ou expulser tous les musulmans. Donc la prime est au populisme dans cette affaire-là.
Oui, mais vous avez raison, Jean-François Daguzan. On vient d'entendre Hillary Clinton, en effet, rappeler avec un ton extrêmement docte qu'en effet, elle a eu à gérer des dossiers très importants. Mais à part rappeler qu'elle a été secrétaire d'État, qu'elle a géré notamment, enfin qu'elle a co-géré notamment l'assassinat de Ben Laden, bon, qu'est-ce qu'elle propose contre le terrorisme ?
Oui, mais voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire à travers un discours qui se veut professionnel, le message a beaucoup de mal à passer parce que les Américains attendent un autre son de cloche qui est celui de la fermeté ou de l'énoncer d'une stratégie qui pour le coup est je sais ce qu'il faut faire.
Frédéric.
Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, effectivement, ça la dessert parce que elle fait partie de la droite du Parti démocrate, une droite démocrate très très interventionniste en réalité. Hein. Et lorsqu'elle était aux affaires, elle était, ma foi, sur une ligne relativement combative et c'est même le moins qu'on puisse dire. Prenez également Barack Obama. Bon, Jean-François disait à juste titre qu'il s'est toujours tenu à sa volonté de ne pas renvoyer des soldats sur le terrain. Oui, mais des drones, en revanche, il en envoie. Vous voyez, donc
au Pakistan,
au
Yémen,
des dizaines de milliers de personnes. Alors sans doute des terroristes, en tout cas c'est ce qui est officiellement dit, qui ont été abattus par des drones. Alors, c'est une autre forme de guerre, mais on ne peut pas le considérer comme un pacifiste bel an, et elle moins encore.
Oui. Un mot encore sur le Proche-Orient avec les élections législatives en Jordanie, c'était en milieu de semaine, petit pays de 8 millions d'habitants. Scrutin marqué par le retour des frères musulmans, donc après 12 ans de boycott des élections, 16 sièges sur 130. Qui sont ces islamistes ? Qu'est-ce qu'ils veulent, Frédéric Ancel ?
Alors, les frères musulmans se sont trompés en réalité, parce qu'ils pensaient qu'en boycottant les élections, ils allaient emmener avec eux une grande partie de la population dont ils pensaient qu'elle était aussi ultra-conservatrice, et par conséquent, ça allait affaiblir le pouvoir du roi bédouin hachémite. En réalité, les gens ont continué à voter. Et du coup, ils reviennent. La politique de la chaise vide, en quelque sorte, a été un échec, et donc ils reviennent. La majorité des Jordaniens sont des gens conservateurs, mais certainement pas islamistes. Les islamistes radicaux en Jordanie n'ont jamais réussi à prospérer, notamment pour une raison qu'on oublie trop souvent, c'est que c'est un pouvoir de type clanique et tribal, fondamentalement bédouin et tribal. Autrement dit, la grande minorité de la population bédouine du pays suit et suivra aveuglément le roi, d'autant plus qu'il est lui-même descendant du prophète. Donc on ne plaisante pas avec ça. Hein. D'ailleurs, au Maroc, l'autre côté du monde arabe, on a aussi ce même système. Et par conséquent, les frères musulmans, la tête un peu basse, essayent de revenir par la voie démocratique. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont revenir, mais là aussi, à la marocaine, sans contester dans ses fondamentaux le royaume hachémite.
Oui, le royaume hachémite, il est menacé de l'intérieur ou de l'extérieur ou pas, Jean-François Daguzan ? Petit pays, je le disais.
Ce malheureux pays est un peu coincé dans une situation géostratégique complexe avec la Syrie d'un côté et tout le poids des réfugiés, évidemment.
Un million de réfugiés, un million et demi.
Pour
6 millions d'habitants.
Ouais, bien sûr.
Au total.
L'impact de la guerre d'Irak, il y a les réfugiés irakiens sont toujours là. Et évidemment, une situation interne compliquée économiquement et politiquement par d'abord la crise et la montée du radicalisme. Ceci étant, pour cette question des frères musulmans, il faut quand même voir que c'est un dialogue permanent entre l'État, le roi et les partis politiques qui distribuent les cartes.
Bon, allez, la Jordanie, pays confronté à une vague massive de réfugiés, ce que nous disait tout de suite Jean-François Daguzan. Retour d'ailleurs dans 7 jours dans le monde, dans un instant, l'Europe déchirée autour des migrants. Est-ce le retour des frontières de plus en plus ? On va retrouver Jean-François Daguzan de la Fondation pour la Recherche Stratégique et Frédéric Ancel, auteur de Géopolitique de la Nation France avec Yves Lacoste. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec Frédéric Ancel, qui est professeur de relations internationales à Paris Business School et qui participe ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges au Festival International Géographique. Avec nous également Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation
pour la recherche stratégique. L'actu international marqué cette semaine par l'événement annuel, on vous en parlait tout à l'heure, l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dernier discours de Barack Obama qui appelle à faire davantage pour les réfugiés.
That little boy on the beach could be our son or our grandson.
Ce petit garçon sur la plage pourrait être notre fils ou notre petit-fils et nous ne pouvons fermer nos yeux ou lui tourner le dos. Fermer la porte à ses familles serait renier nos valeurs les plus profondes. Ce serait un déni à l'héritage de nos nations, y compris celui des États-Unis, qui ont été construits par des immigrés, et ce serait ignorer l'adhésion à de très nombreuses croyances. Faisons aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse.
La déclaration à l'ONU en marge de l'Assemblée générale lors d'un sommet, un forum sur les réfugiés. Cette question des réfugiés, Jean-François Daguzan, ça devient, allez, la question centrale des politiques, notamment dans le monde occidental.
Oui, puisque on est sur des chiffres tout à fait considérables. Donc, il fut un temps où l'accueil du réfugié ne se posait pas parce que il était, je veux dire, noyé dans le flot des mouvements humains de ces pays-là. Aujourd'hui, l'effet syrien auquel il faut rajouter l'effet libyen et africain avec la pression donc sur la Méditerranée centrale et sur la Méditerranée de l'Est des boat people qui arrivent sans que le flot ne se tarisse,
Il y a eu l'accord avec
malgré l'accord avec la Turquie, qui a quand même joué un rôle non négligeable, mais qui a réouvert les routes terrestres d'autres voies. Donc aujourd'hui, nous avons un effet de réfugiés qui ne serait sans doute pas un problème en situation économique de croissance et avec, je dirais, une Union européenne, par exemple, en dynamique politique, et qui en est un majeur parce que la crise est là et que l'Europe ne sait pas qui elle est, où elle va. Et donc, à partir de là, le réfugié pose un problème à la fois d'identité, de culture, de choc, qui... Vous remettez par-dessus la couche du djihadisme terroriste, évidemment, et alimente la machine à fantasmes.
Allez, Frédéric Ancel, les chiffres, hein, quand même, faut le dire, ce n'est pas uniquement l'Europe et les États-Unis qui sont concernés, loin de là, par les migrants. Il y a 65 millions de personnes déplacées dans le monde, dont 21 millions de réfugiés. Ils vont où, principalement? Liban, Turquie, Jordanie, Iran, Kenya, Ouganda, Éthiopie. Voilà la réalité.
Sud-sud. Non, mais sud-sud. Jean-François vient de parler de machine à fantasmes, mais c'est exactement ça. Il ne faudrait pas que vos auditeurs et téléspectateurs considèrent que l'Europe est littéralement envahie, ou que le Nord est submergé par une vague hallucinante de réfugiés. Ce n'est pas exact. Nous sommes un peu plus de 500 millions en Europe, et il y a une vague ces deux dernières années d'un peu plus d'un million de personnes. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce que des pays infiniment plus déshérités que les nôtres en Europe acceptent et supportent chez eux. Et vous avez mentionné plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays d'Asie, c'est là que ça se passe. On est sur plus de 90% de l'ensemble des réfugiés dans le monde qui le sont sud-sud.
Hein, par conséquent, le plus grand camp de réfugiés au monde, qui est une véritable ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, c'est au Kenya.
Oui, absolument. C'est au Kenya. Vous avez de nouveau, là, ces derniers mois, on n'en parle malheureusement pas suffisamment, des dizaines de milliers de réfugiés du Burundi qui sont allés vers le Rwanda. On est là sur le top 10, top 20 des pays les plus pauvres du monde. Et c'est là que ça se passe. Alors malheureusement pour eux, mais encore une fois, prenons garde à ne pas trop fantasmer, voire de pas fantasmer du tout, les grandes vagues de réfugiés que nous avons chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à la manière dont on les accueille, à la souveraineté dont nous avons encore, dont nous sommes encore dépositaires. Hein. J'allais dire, on accepte qui on veut bien accepter. Néanmoins, ne fantasmons pas. C'est au Sud, pour l'essentiel, que ça se passe.
La machine à fantasmes, justement, avec en Europe le débat sur les migrants qui s'est imposé depuis plus d'un an, depuis qu'en effet Angela Merkel a provoqué en quelque sorte cet appel d'air, hein, donc l'été 2015, et depuis Angela Merkel, elle subit des revers dans les urnes. Alors bien sûr, la question des réfugiés n'est pas l'unique raison, mais malgré tout, de la part de Angela Merkel, la chancelière fédérale, il y a quand même un début de semblant de mea culpa. Tiens, on aurait peut-être pu faire autrement.
S'il y a une raison à retenir des mauvais résultats de la CDU, c'est de ne pas avoir bien expliqué la direction, le but et la raison de notre politique d'immigration. Le devoir de mettre à l'abri temporairement des centaines de milliers de réfugiés qui sont déjà arrivés chez nous ne se fait pas aussi facilement, et encore moins en une nuit. Nous avons fait des erreurs dans le passé car nous n'étions pas vraiment champions du monde en intégration et aussi parce que nous avons attendu trop longtemps. Il faut que désormais, nous nous surpassions.
Elle est allée trop vite, Angela Merkel, Frédéric Jean-François, Frédéric Ancel.
Surtout, elle est allée de manière totalement désorganisée. Et les Allemands sont des gens relativement organisés, c'est pas les seuls d'ailleurs, hein. Et c'est pas du structuralisme, hein, ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait connu. Et Angela Merkel en particulier. Bon, bah, l'an dernier, il y a eu un sentiment justifié de la part de la population allemande et des Européens d'un laisser-aller total, absolument total. 1 million de personnes qui viennent en Allemagne. On ouvre grand les portes, on vérifie à peu près pas du tout de qui il s'agit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un véritable problème qui est la montée de ce fameux populisme, encore une fois, pas seulement en Allemagne, hein, sur l'ensemble de l'Europe centrale orientale et un peu aussi d'ailleurs occidentale, parce que cette peur. Et malheureusement, je crois très sincèrement que Angela Merkel, l'an dernier, s'est plantée. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas eu du tout d'organisation de cette vague de migrants sans précédent, tout de même pour l'Allemagne.
Et on l'a vu encore, François Daguzan, le week-end dernier, élection dans le Land de Berlin, la CDU qui perd presque 6 points par rapport au scrutin précédent, qui est talonné par le parti d'extrême droite, l'AFD, lequel avait dépassé la CDU il y a, je crois, 2 semaines, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans l'ex-RDA. Jean-François Daguzan.
Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un paradoxe allemand, c'est que ce qu'a vu Angela Merkel, sans ensuite être capable, justement, de lui donner une forme structurée, c'est la crise démographique allemande. Les Allemands, à l'horizon 2050, vont s'effondrer en termes de population, au même titre d'ailleurs que l'Espagne et l'Italie, hein, qui sont les 3 pays en crise majeure en Europe. Donc l'idée de faire rentrer des migrants en masse a sans doute été perçue dans l'esprit de la chancelière comme un élément positif qu'elle saurait bien expliquer à la population. Sauf que nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure, crise d'identité, crise économique, même pour l'Allemagne, même si ça marche très bien pour eux. Et donc l'effet, c'est l'effet populiste qui gagne, et tout d'un coup, cette espèce de sentiment d'être, de voir un tsunami de réfugiés dévaler sur l'Allemagne, alors que ce pays devrait les absorber relativement facilement, y compris par la nécessité de pourvoir des postes de travail dont elle va avoir
tout
besoin.
Juste des postes manquants, bien sûr. Et tout ça, il en était question au sommet des 27, hein, le week-end dernier, donc à Bratislava, en Slovaquie. Oui, 27, c'était le sommet de l'après-Brexit. Alors oui, bien sûr, les chefs d'État, de gouvernement affichent leur unité. Bon, c'était très sympa, bien entendu, mais Jean-François Daguzan, quand même. Le fameux esprit de Bratislava qu'on a voulu mettre en avant le week-end dernier, 6 mois... pour aller redonner espoir aux citoyens, aux citoyennes, pour rendre l'Europe attrayante. Ça va durer combien de temps ?
Ça va durer longtemps parce que l'Europe est plongée dans une crise qu'elle n'a jamais connue, qui est sans doute liée à une crise de croissance au sens de grandir pour un enfant et passer à l'âge adulte. C'est-à-dire le moment où cette constitution qui a été faite après la guerre, pour à la fois à travers le plus jamais ça, plus jamais de guerre européenne, et faisons une nation prospère et en croissance permanente, s'est heurté à la crise économique qui a ramené finalement l'Europe à tous les trous dans le dispositif qui avaient été repérés certes, mais jamais traités, parce que on se disait on en parlera quand ça ira mieux ou quand on aura le temps. Et quels sont-ils ? C'est les différences structurelles entre les différents pays, qu'on a vu à travers la crise grecque qui a été la plus caricaturale, l'absence de frontières qui est essentielle dans la crise européenne parce que on se disait on va pousser un petit peu plus à l'est, on va pousser un petit peu plus par là. Il n'y a jamais eu la moindre définition de la frontière dans aucun texte européen de 1957 à nos jours. Donc, à un moment donné, s'arrêter et dire où passe la frontière européenne devient un élément essentiel parce que c'est un phénomène d'angoisse pour la population. Et on le voit très bien avec la crise turque, avec les réfugiés, avec l'Ukraine. Où s'arrête l'Europe? Et à partir de là, comment je fais pour assurer un minimum de contrôle de ce qui serait la future frontière européenne. Et dernier point, évidemment, cette crise d'identité, de qui suis-je, hein, suis-je un Européen, suis-je un Allemand ou un Français,
suis-je un Catalan ou un Espagnol,
Avec derrière, évidemment, les régionalistes qui sont repartis, suis-je un Écossais, Suis-je un catalan
La fin de l'État-nation de Barcelone à Bagdad, c'était vous qui l'aviez signé il y a, en début d'année
2016. Merci de le rappeler, Fabrice.
Petit livre de 80 pages, peut très bien se lire en même temps que Géopolitique de la Nation France de Frédéric Ancel. Oui, la question des migrants, elle est fondamentale, bien sûr. Dans deux semaines, c'est la Hongrie qui va organiser un référendum sur les quotas de migrants. C'est une attitude de défi de Budapest vis-à-vis du reste de l'Europe, justement, pour dire « je fais ce que je veux chez moi ».
Oui, et puis on voit bien que derrière tout ça, il y a, une fois de plus, l'obsession, enfin l'angoisse du repli.
Oui.
Hein, certes, les Hongrois sont en partie en première ligne pour l'accueil des réfugiés, mais aussi c'est une façon de, comment dire, de dériver les vrais problèmes, qui sont encore une fois politiques et économiques chez eux, vers le bouc émissaire que peut représenter le réfugié. Et ça, on l'a chez les Hongrois, mais on l'a chez énormément de gens, et il est vraisemblable que dans la campagne présidentielle française, on en touche quelques mots.
Ça a commencé, Frédéric Ancel, on voit Nicolas Sarkozy, où il était cette semaine, il était à Calais, au moment près des postes frontières, où les migrants essaient de monter sur les camions en direction de la Grande-Bretagne.
Oui, c'est fou, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on considérait que s'il devait y avoir une grande crise de croissance, effectivement, au sein de l'Union européenne, elle serait surtout sociale et économique. En fait, non, elle est identitaire.
Ouais.
Et aujourd'hui, l'Europe centrale et orientale, y compris des diplomates extrêmement feutrés dans leur langage, nous disent à nous autres, notamment français, britanniques, dans une moindre mesure belges, toutes ces histoires d'Afrique et d'Asie, du Moyen-Orient, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas colonisé. Nous n'avons pas de population noire et arabe chez nous. Ils vous le disent comme ça. Hein. Et trois...
Nous n'avons pas de frontière avec la Méditerranée.
Pas de frontière avec la Méditerranée. Et puis, surtout, nous avons un véritable épouvantail, et tout à fait sérieux, une vraie menace, c'est le retour en force de l'impérialisme russe. Parce que nous, on est en face. Et là, nous avons une espèce de fracture, et Bratislava l'a bien montré, sur une fracture qui est de type, alors pour le coup, vraiment identitaire, de plus en plus forte. J'ajoute un point important. À l'Est, on parle de plus en plus de chrétienté. On revient à cette dimension chrétienne. Et lorsque vous dites à ces gens-là, mais écoutez, vos églises, bon, sauf les Polonais, les Slovaques, mais les Croates, vos églises sont aussi vides que les nôtres, et, peu importe. Ils considèrent que leur substrat chrétien est fondamental et qu'il est menacé par des migrants qui, dans leur grande majorité, sont des musulmans.
La Russie, avec un Poutine conforté intérieurement, hein, après son succès aux dernières élections, c'était dimanche dernier, Russie unie, majorité absolue, un nombre record de sièges. Oui, toujours sur cette quête d'identité, Jean-François Daguzan.
Oui, il faut rappeler justement ce que faisait Frédéric. Aujourd'hui, l'émergence d'un bloc d'Europe de l'Est identitaire, entre guillemets, dans lequel on retrouve la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et les autres, qui désormais, ou le triangle de Visegrad, comme on disait dans les années 90, hein, c'est-à-dire...
Pologne, Slovaquie, Hongrie et Tchéquie.
Ils
ne veulent pas des migrants. Hein.
Qui ne veulent pas de migrants et qui vont bloquer toute décision européenne qui irait dans ce sens. Et c'est très fort, très net et brutal.
En tout cas, il y a juste un truc aussi qui va faire voter populiste. Hein. L'affaire Nelly Kroes aussi, on va le rappeler, on en a parlé sur BFM Business, Frédéric Ancel, l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, c'est pas n'importe qui justement. Et bien, pendant son mandat, dans les années 2000, au début des années 2000, elle dirigeait une société offshore aux Bahamas. Bon, elle avait oublié d'en parler, comme ça, par hasard. Bon... Ça s'ajoute à une autre affaire, légale peut-être, mais pas forcément morale. C'est le départ de Barroso, José Manuel Barroso, vers la banque Goldman Sachs, celle qui est accusée d'avoir quelque part saigné en quelque sorte la Grèce, à tort ou raison, peu importe. Ça arrive au mauvais moment aussi, cette histoire.
Au très mauvais moment, un moment électoral, ou j'allais dire pluri-électoral en Europe, et notamment en Europe occidentale. Et je dirais que là, ça repose la question de la responsabilité au sens moral et institutionnel du responsable. Celui qui a voulu être responsable. Ces gens-là ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont voulu l'être. Et par conséquent, l'exemplarité, sans jouer au Robespierre, si tant est d'ailleurs qu'il n'ait pas été corrompu lui-même, mais il faut absolument démontrer aux populations dont on a la charge, en partie au moins, qu'on est à peu près exemplaire, parce que sinon, bien évidemment, les gens vont aller chez des candidats qui, soi-disant, ont les mains propres, en tout cas, qui le jouent, et en général, ce sont des populistes.
Allez, Frédéric Ancel, auteur de Géopolitique de la Nation France, avec Yves Lacoste, qu'on retrouve dans un instant avec Jean-François Daguzan de la Fondation pour la Recherche Stratégique. 7 jours dans le monde, retour sur la vente de 36 Rafales à l'Inde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde sur BFM Business, l'actu internationale de la semaine, encore pendant quelques minutes. Et c'est fait la fin d'un long feuilleton. Hein. L'Inde qui achète à la France et Dassault Aviation, bien sûr, 36 rafales. Ça faisait 9 ans que ça durait. Hein. Signature ce vendredi à New Delhi en présence de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, avec son homologue Jean-François Daguzan. Victoire commerciale, victoire diplomatique aussi.
Oui, les deux. Et je crois qu'on peut signaler quelque chose de très important, qui est l'efficacité extraordinaire, pour une fois, il faut faire un peu de cocorico, de Jean-Yves Le Drian dans son rôle de VRP de l'armement français, qui fait partie des attributions du ministre de la Défense, mais qui a réussi à mettre en place un continuum avec les industriels, alors pas seulement Dassault, mais aussi Thales et les autres, Airbus et les autres, qui s'est révélé d'une redoutable efficacité, parce que cohérente. On avait eu des catastrophes, le contrat des Rafales au Maroc, qui avait été un ratage de première main, la centrale nucléaire, alors qui n'a rien à voir avec le ministère de la Défense, mais des Émirats, qui avait été un auto-torpillage français entre
EDF et Areva,
voilà,
marché sur les pieds.
Alors que de ce point de vue-là, l'équipe de
Le Drian.
De Le Drian et les industriels ont réussi à mettre en place des process d'une redoutable efficacité qui se sont traduits par ces succès, sans doute peut-être portés par une géopolitique qui s'y prêtait, mais
justement,
il n'en demeure pas moins que, pour le coup, ça a marché. Et la machine française, d'ailleurs sur l'Australie également.
Les sous-marins.
Avec les sous-marins, bien entendu, s'est révélée extrêmement opérante.
Géopolitique, parce que quoi ? Parce que l'Inde, il y a d'un côté le Pakistan, de l'autre côté la Chine. L'Inde avec un matériel un petit peu vieillissant, des appareils russes. Il fallait que l'Inde montre un petit peu, avec son premier ministre nationaliste, les muscles.
Oui,
et la menace est là aussi. Bah, hein.
Oui, mais ils auraient pu acheter russe d'une certaine manière, ce qu'ils continueront sans doute à faire sur d'autres matériels. Ils ont aussi une coopération avec Israël qui marche plutôt très bien. Hein. Mais je pense qu'il y a là aussi un acte vis-à-vis des États-Unis de montrer que, en prenant du matériel de haute technologie français, finalement, on fait preuve d'indépendance, retrouvant un peu ces modèles qui ont tant aidé la France commercialement dans les années 70-80, par exemple, mais qui n'était pas du tout acquis, eu égard à la complexité de la prise de décision indienne, par exemple, pour ne citer que celle-là. Et puis, rappelons aussi les mirages égyptiens, même s'ils ne sont pas très nombreux, ou les frégates, finalement.
Enfin, l'égyptien,
oui. Oui, et les frégates qui devaient aller en Russie. Les frégates Mistral, qui ont, je dirais, qui sont autant de succès porté par, ce coup de main géopolitique, des relations excellentes avec l'Arabie Saoudite qui ont permis le financement de ces achats pour les Égyptiens, etc., etc. Donc, on est dans un ensemble à la fois favorable, mais qui a été extrêmement bien géré par l'équipe France.
Oui, c'est l'Arabie Saoudite qui avait payé au départ, comme l'a rappelé Jean-François Daguzan. Là, c'est le premier contrat, vraiment, où un pays va acheter, va payer, va faire un chèque lui-même, 9 milliards.
On est sur du 8 milliards, avec des matériels à très très haute valeur ajoutée, donc ça apporte beaucoup à la France, ça fait travailler beaucoup de gens en France. Je rappelle aussi l'échec catastrophique des Rafales au Brésil. Non seulement on avait raté le Maroc, on avait raté le Brésil, je rejoins Jean-François sur Jean-Yves Le Drian, c'est quelqu'un qui ne fanfaronne pas, il agit et il réussit. Donc ça n'a pas toujours été le cas tout de même. Hein. Donc ça c'est un point important. Et puis cerise sur le gâteau, l'Inde non seulement est une vraie grande démocratie, et d'autre part, elle se bat, elle aussi, effectivement, contre l'islamisme radical dans sa propre région.
Oui, et on a vu encore cette semaine des tensions assez vives, des combats sporadiques dans la région du Cachemire.
Avec le Pakistan.
Et
pourvu que ça ne dégénère pas, je rappelle qu'il y a déjà eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan, et qu'une quatrième serait une guerre nucléaire. Donc on a affaire à deux titans.
Hein. La France, elle s'installe de plus en plus dans cette région. Vous avez rappelé les sous-marins australiens. On a vu le contrat donc ce vendredi avec les Rafales en Inde. C'est quoi la prochaine cible ? On parle de la Malaisie, Jean-François
Oui,
Daguzan.
Ça fait maintenant dans 4 ans que au ministère de la Défense on a vraiment ciblé l'Asie comme un élément déterminant à la fois de relations politiques nouvelle politique et stratégique nouvelle, qui est quand même un continent ou une zone qu'on avait un peu laissé aller au fil du temps, vu je dirais l'espace qui nous sépare. Et aujourd'hui, on est revenu et Le Drian est allé systématiquement au forum de Singapour, symboliquement sur la défense et la sécurité, pour montrer la présence française. Il a parcouru l'Australie, si je peux me permettre, de fond en comble. Il est sur le terrain asiatique et ça aussi, ça porte ses fruits. Et comme vous le disiez, il y a des opportunités possibles en Malaisie et sans doute d'autres contrats potentiels.
Allez, avant de nous quitter, vous me dites un mot, Frédéric Ancel, sur l'Afrique, la RDC, en proie cette semaine à la violence sur fond d'élections présidentielles à venir. Des dizaines de morts cette semaine à Kinshasa, la capitale. Combien exactement ? C'est pas très bien. Des manifestants tués par les forces de l'ordre aux mains du président Joseph Kabila. Il est au pouvoir depuis 16 ans. Des élections devaient se tenir lundi dernier. Elles ont été reportées fin novembre. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il est battu ? Il veut rester au pouvoir, Kabila ?
Oui, il veut rester au pouvoir. C'est d'ailleurs pas le seul sur le continent et ailleurs. On l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années. Je rappelle simplement quelques faits qui illustrent la malédiction de la RDC ex-Zaïre, ou Congo-Kinshasa, on peut l'appeler comme ça. État gigantesque, mais dépourvu de la représentation d'un État-nation unifié, donc un clanisme et un régionalisme extraordinairement fort. Donc État central très corrompu, extrêmement corrompu. Ça date pas de Kabila, hein. Ça a toujours été le cas depuis l'indépendance, dans les années 60, bien sûr, avec notamment Mobutu Sese Seko. Des voisins turbulents et parfois des guerres aux frontières, je pense notamment à l'Est, au Kivu, près du
Rwanda et Burundi.
Rwanda, absolument, et du Rwanda et du Burundi. Et puis, ça procède aussi de la malédiction, un sous-sol extraordinairement riche. Alors, par un faux paradoxe, c'est une catastrophe parce que ce n'est pas l'État central qui se donne les moyens de pouvoir utiliser ces richesses et notamment les redistribuer à sa population, mais ce sont des compagnies internationales qui financent des milices locales, ce qui ajoute encore au chaos malheureusement.
Ça fait des dizaines d'années qu'on fait ce qui s'est passé dans les années 60, Moïse Tshombe, le Katanga notamment. Frédéric Ancel, que vous retrouvez, participant donc ce week-end au Festival de Géographie Internationale à Saint-Dié-des-Vosges, auteur de Géopolitique de la Nation France avec Yves Lacoste. Voilà, Frédéric Ancel, qui est professeur de relations internationales à Paris Business School, à Sciences Po Paris. Et puis je remercie également Jean-François Daguzan, la fin de l'État-nation de Barcelone à Bagdad. C'est le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. 7 jours dans le monde, c'est fini. À très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.